Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question du port du voile dans les universités françaises, de l'origine de la monogamie, des écoles infestées, des surpopulations scolaires, des inégalités entre enfants dans plusieurs pays et en rafale. Voici les bonnes nouvelles du jour. Mars Food lance une initiative mondiale de santé. Allo Prof célèbre ses 20 ans d'existence et lancement du collaborathon international qui touche les villes intelligentes du monde entier. Et oui, mesdames et messieurs, un collaborathon international. Mais je débute avec cette nouvelle. Une loi sur le voile à l'université, ni utile ni opportune selon l'Observatoire de la laïcité. C'est ce que nous apprend la plateforme Le Monde, lemonde.fr, et voici ce qu'on peut y retrouver sur cette plateforme. Il n'est ni utile ni opportun de légiférer sur le port des signes religieux, dont le voile, par les étudiants de l'enseignement supérieur. C'est l'avis très attendu qu'a rendu mardi 15 décembre l'Observatoire de la laïcité, organisme consultatif qui dépend du Premier ministre. Pourquoi on revient sur cette nouvelle-là? Eh bien, mesdames et messieurs, pour une chose bien simple. C'est que le premier ministre, Manuel Valls, le premier ministre de France, revient là-dessus. Il revient sur l'idée d'interdire le port du voile dans les universités. Or, un organisme laïque, mais semble, il n'y a pas plus laïque que l'Observatoire de la laïcité, eh bien, dit que, justement, c'est pas utile et c'est pas opportun de légiférer sur le port des signes religieux. Écoutez, peut-être que le mouvement laïque ici au Québec est beaucoup plus intransigeant, mais en France, on voit qu'il est beaucoup plus souple et beaucoup plus impartial. Maintenant, pourquoi le premier ministre Valls veut-il légiférer en la matière? Eh bien, c'est bien simple. Parce que du côté de la droite, on s'oppose au port du voile en milieu scolaire universitaire. Moi, vous le savez, vous m'avez entendu sur la plateforme du 92.7 et sur d'autres tribunes mentionner que moi, je suis pour la liberté de religion, la liberté de conscience et la liberté de parole. Et donc, puisque je suis pour la liberté de religion, eh bien, si quelqu'un porte un voile par motif de conscience, par motif religieux, l'État ne doit pas interférer, ne doit pas légiférer. Sauf pour des cas d'identité ou de sécurité. Et ça, ça va de soi, et ça, ça fait partie du rôle de l'État, d'assurer notre sécurité publique. Et c'est intéressant parce que dans cet article du Monde, eh bien, on peut y apprendre quelque chose de vraiment intéressant. Écoutez bien ça. Si une dizaine de cas de prosélytisme ont été recensés via le questionnaire, aucun n'a été associé au port du voile. Et c'est ça qu'il faut adresser. C'est le prosélytisme. Prosélytisme, ça veut dire d'essayer de former des disciples, des adhérents à notre groupe, à notre religion. Maintenant que les gens portent un voile ou non, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont avoir plus ou moins de prosélytisme. C'est vraiment une attitude, et c'est cette attitude-là et c'est ce comportement-là qu'il faut adresser, et non pas la tenue vestimentaire. Un autre cas qui a été soulevé, c'est qu'il y a des enseignants, des profs, qui ont demandé que le voile soit retiré lors des examens parce qu'ils voulaient s'assurer que les oreilles des candidates soit bien libre parce que on soupçonnait que certaines pouvaient porter des écouteurs pour entendre de l'information. Et donc, ça peut être de l'information enregistrée ou de l'information qui est diffusée par téléphone. Donc, c'est important. Ça devient un prétexte pour cacher des écouteurs. Et donc, là-dessus, c'est une mesure de sécurité. Et donc, moi, je suis d'accord avec ça, de dire dans des contextes spécifiques comme ça. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de porter un voile, tout simplement, à l'université, parce que ça l'identifie à une religion X, Y ou Z. Et ce qu'il va dire, l'Observatoire, eh bien, c'est intéressant. Le faible nombre de problèmes signalés conduit l'Observatoire à se prononcer contre l'idée d'étendre à l'université la loi de 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires. Parce qu'il y a une loi qui a été établie en 2004, mais pas nécessairement appliquée. Et justement, le premier ministre Valls jonglait avec cette idée-là. C'est ce qu'on pouvait lire sur la plateforme du Huffington Post. Et dans un article intitulé « Valls veut une loi contre le voile à la fac, les étudiants l'alertent sur les vrais problèmes ». Parce que ce qu'on est en train de dire en France, c'est que, hey, un instant, M. Valls, vous voulez appliquer la règle dure concernant les voiles, le port du voile à l'université, mais on a beaucoup d'autres problèmes à s'attaquer avant celui-là. Et ça, c'est important, ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu un hashtag « Vrai problème université » qui a été lancé sur les réseaux sociaux pour mettre en lumière quels sont les vrais problèmes de l'université. Et c'est pour ça qu'on en parle également sur la plateforme Le Figaro, particulièrement dans le magazine Madame Le Figaro, donc c'est madame.lefigaro.fr, et un article intitulé « Une étudiante voilée. J'ai l'impression que les politiques n'ont jamais côtoyé de femmes musulmanes. » Et j'ai relevé un des témoignages qui a été publié dans cet article. Voici ce qui est dit. « Le voile n'est pas responsable de la non-parité au gouvernement, de la culture du viol, des inégalités. » Les vraies problématiques au cœur des préoccupations des Français sont évincées, voilées par le voile qu'on tente d'ériger en problème numéro un. Voilées par le voile qu'on tente d'ériger en problème numéro un. En d'autres mots, ils disent, c'est pas à cause du voile qu'il y a des viols, qu'il y a des inégalités, c'est pas à cause du voile qu'il y a toutes sortes de problèmes. Mais pendant qu'on se préoccupe et on débat du voile, eh bien, l'opinion publique n'est pas concentré sur les vrais problèmes et les vraies solutions à apporter. On sait, mesdames et messieurs, que le port du voile est caractéristique de la communauté musulmane. Et on sait également que dans la communauté musulmane, on retrouve à travers le monde certains hommes qui vont pratiquer la polygamie, donc qui vont avoir le loisir d'avoir plusieurs épouses. Maintenant, moi, je ne suis pas en faveur de la polygamie, c'est clair. Mais ce qui arrive, c'est que ce que j'ai appris par la presse, c'est qu'un des éléments qui a amené certains groupes ou certaines communautés de passer du polygamisme au monogamisme, donc, il y a certains hommes qui avaient plusieurs femmes et dans ces communautés-là, c'était accepté, puis à un moment donné, ça a cessé d'être accepté. Et savez-vous qu'est-ce qui a été à l'origine de cela dans certaines de ces communautés-là? Pas toutes les communautés, mais certaines d'entre elles. Bien, la presse nous révèle que ce sont les infections transmises sexuellement, les ITS. Voici ce qu'on nous dit sur la plateforme de la presse à cet effet. Le développement des infections transmissibles sexuellement pourrait avoir influencé l'émergence de la monogamie dans nos sociétés, selon une étude publiée mardi. Selon cette étude publiée dans Nature Communications, la polygamie était la norme dans les petites sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais ce constat a été de moins en moins vrai au fur et à mesure que les sociétés se sont agrandies avec l'avènement de l'agriculture et de la sédentarisation. La monogamie est alors devenue dominante. Écoutez bien ce qui suit, c'est intéressant. En se basant sur des données démographiques, chez les chasseurs-cueilleurs et des données épidémiologiques sur les ITS, Chris Bauch et ses collègues ont modélisé l'évolution des différentes normes familiales. Quand une société est importante, environ 300 personnes, la prévalence des ITS devient endémique dans la population et le taux de fécondité baisse. On voit alors émerger la norme monogame. Le mode de vie polygame est alors stigmatisé, la société allant jusqu'à punir les membres du groupe qui ne s'y conforment pas. En revanche, au sein d'un petit groupe de maximum 30 personnes, les ITS sont caractérisés par des épidémies de courte durée qui ne deviennent pas endémiques. Le taux de fécondité reste fort, la polygamie est la norme sociale dominante. Donc, c'est intéressant. Dans les petits groupes, à ce moment-là, il y a moins de chances d'avoir des endémies. Mais dans les grands groupes, il y a plus de chances. Donc, à un moment donné, quand les ITS commencent à se répandre dans des groupes de 300 personnes ou plus, eh bien là, on commence à restreindre justement les personnes à pratiquer le polygamisme ou la polygamie. C'est intéressant. Et ce sont les ITS qui ont contribué à ça. En d'autres mots, moi, ce que j'en retire de tout ça, c'est que les ITS contribuent à une réflexion sociale et à se dire, « Oh, le meilleur modèle pour ne pas être infecté, c'est d'avoir un partenaire et de demeurer fidèle à son partenaire. » Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a pas simplement... La question des ITS qui est préoccupante. Et il y a d'autres éléments qui sont préoccupants. Ce sont nos écoles qui sont infestées par les souris à Montréal. Eh oui, s'il y a eu certains groupes qui ont été infectés par des ITS, eh bien nous, mesdames et messieurs, au Québec, on est infectés, ou infestés, devrais-je dire, par des souris à Montréal. Écoutez bien ce que nous dit Harold Lévy, spécialiste en gestion sanitaire. C'est très sérieux. Ce sont des problèmes qui vont durer. Plus les bâtiments seront mal entretenus, plus il va y en avoir des souris. Plus il va y avoir de souris. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi, c'est pour ça que je me bats pour qu'on puisse changer les structures de notre système d'éducation. Parce qu'il est selon un modèle qui existait au siècle dernier, et maintenant au 21e siècle, on a besoin d'un système d'éducation qui correspond à notre réalité d'aujourd'hui. Hey, écoutez, le système d'éducation, là, mesdames et messieurs, là, qui existe en ce moment, là, il est basé sur un modèle qui a été mis au point dans la Révolution tranquille. Mais savez-vous quoi? C'est que dans ces années-là, là, et moi, je m'en souviens, parce que j'ai eu deux sœurs qui étaient secrétaires d'école, puis je me souviens, parfois, j'allais les aider. Et c'était une époque, dans les années 70, mesdames et messieurs, là, il n'y avait pas de photocopieur. C'était le stencil à manivelle, avec de l'alcool, puis avec un papier carbone. Puis il fallait tourner ça à main pour faire des photocopies. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de télécopieur non plus. Il n'y avait pas de fax. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Il n'y avait pas d'ordinateur. C'était à la dactylo. Puis, savez-vous quoi? Quand on a mis au point les commissions scolaires, il n'y avait même pas de dactylo électrique. Ça n'existait pas, les téléphones sans fil. Il n'y avait même pas de micro-ondes pour le dîner. Écoutez, mesdames et messieurs, on est rendu pas mal plus loin que là. Les VHS n'existaient même pas, encore moins les DVD. On venait juste de commencer à avoir la télé couleur à ce moment-là, quand on a inventé les commissions scolaires. Écoutez, mesdames et messieurs, il est temps qu'on reconfigure le système scolaire puis qu'on injecte l'argent, là où il le faut. Et donc, j'aurais aimé ça vous parler de la surpopulation qui sonne la fin du libre choix. Eh oui, à la CSDM, à cause de la surpopulation qu'on retrouve dans certaines écoles, eh bien, les parents n'ont plus le choix d'envoyer leurs enfants à l'école qu'ils le désirent. Ils sont obligés, ils sont tenus d'envoyer leurs enfants à l'école qui est imposée par la commission scolaire. Et ça, savez-vous, qu'est-ce que ça fait, ça, mesdames et messieurs? C'est que si on enlève les choix, on enlève la compétitivité, puis on enlève le dépassement. On enlève le dépassement pédagogique. Et donc, on prend les élèves pour acquis puisqu'ils n'ont pas le choix d'être là. Ce n'est plus une clientèle à essayer de gagner puis à démontrer aux parents qu'on est la meilleure école du secteur. Et ça, c'est dommage. Un autre article qui est préoccupant, c'est les inégalités dans l'enfance qui se creusent dans plusieurs pays riches, autant au niveau de l'éducation, de la santé, du revenu, puis de la satisfaction à l'égard de leur vie. Les enfants sont encore pris en otage parce que, et c'est pas étonnant, même si on est dans un pays riche, les enfants qui sont de revenus plus faibles, issus de familles qui ont revenus plus faibles, eh bien, vivent les conséquences d'un système qui va leur rapporter beaucoup moins. Vous allez dire, ben oui, c'est normal, ils ont moins d'argent, ils ont moins de ressources, donc ça va les affecter. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que ça se trouve dans des pays riches. Et par exemple, l'UNICEF, qui propose un classement de ces disparités dans 41 pays de l'OCDE, et de l'Union européenne. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Eh bien, on voit des écarts, des fossés. Et on voit des fossés, écoutez, mesdames et messieurs, dans des pays comme la Finlande, comme la Suède, on voit des fossés comme dans l'Irlande, en Pologne, en Slovénie. Et ça, c'est préoccupant. Je vous invite à lire cet article-là. En Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Israël, au Japon. Et donc, moi, ça me brise le cœur de voir ça. Parce que, savez-vous ce qui me brise le plus le cœur? L'information, là, moi, qui m'a renversé. Dans tous les pays de l'OCDE, les enfants les plus défavorisés éprouvent un retard équivalent à 3 ans de scolarisation en lecture par rapport à l'enfant moyen. Et ça, c'est énorme, mesdames et messieurs. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est beaucoup plus préoccupant que le port du voile à l'université, à mon avis. Mais j'aimerais terminer sur de bonnes nouvelles. Et oui, voici les bonnes nouvelles du jour en rafale. Mars Food lance une initiative mondiale de santé et de bien-être pour offrir aux consommateurs des aliments plus nutritifs et les inciter à cuisiner et à manger ensemble. Et oui, ce qu'ils s'engagent à faire dans les prochaines années, eh bien, c'est identifier sur leurs produits s'il s'agit d'un produit de tous les jours ou un produit occasionnel qu'on peut manger une fois par semaine. Ils s'engagent également à proposer des recettes et proposer des façons de manger ces aliments-là. Et ils vont garder leurs produits qui sont élevés, par exemple, en matière grasse, en sel ou en sucre ajouté, mais ils vont également établir des produits qui sont plus santé pour pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre de gens à manger santé. Et ce qu'ils proposent aussi, parce que selon eux, il y a des études qui démontrent que les familles qui cuisinent et mangent ensemble sont en meilleure santé et plus heureuses, donc ils encouragent les familles à manger ensemble et à cuisiner ensemble. Deux autres, rapidement, Allo Prof célèbre ses 20 ans d'existence. Et oui, ils ont réussi à amasser 105 730 $ pour aider les élèves en difficulté. Ils offrent un service d'aide gratuit par téléphone aux enfants qui ont des questions par rapport à leurs devoirs lorsqu'ils sont à la maison. Et lancement du collaborathon international. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut déterminer qui sera la capitale mondiale des villes intelligentes. Et donc, ce soir, à compter de 18h, on va essayer de trouver un défi pour notre ville. Chaque ville qui va participer à ce collaborathon par téléphone va pouvoir justement essayer de trouver un défi et demain de trouver une solution pour répondre à ce défi et peut-être remporter un gros lot assez intéressant. Un gros lot intéressant parce qu'on a déjà un chèque des 10 000 $ puis on veut pouvoir faire augmenter cette cagnotte-là pour pouvoir inspirer des firmes ou des individus à pouvoir apporter des solutions concrètes. Par exemple, la ville de Montréal aurait besoin de feux de circulation intelligents, des feux de circulation intelligents pour que la circulation congestionne moins et soit plus fluide. Alors, ils vont essayer de tenter de voir comment on peut intégrer la technologie et améliorer la vie des citoyens. Pour plus ample renseignement, vous pouvez contacter Jérémy Viau-Trudel au 418-998-9850. C'est Jérémy Viau-Trudel au 418-998-9850. 5-0. Sur ce, chers auditeurs, puisque j'ai déjà défoncé le temps, eh bien, je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, @ericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!